Par ailleurs, du point de vue chrétien, si Dieu s'est incarné en Jésus, c'est pour sauver l'humanité des conséquences du péché originel et rétablir l'amitié rompue entre Dieu et l'homme qui s'en est suivie. Or, le Coran ignore la réalité d'une faute originelle et de ses retombées dommageables sur toute la création. Si vous voulez, le Coran met en scène l'origine, bien sûr. Alors, on voit que Adam a désobéi à Dieu. Ça, c'est comme dans la Bible. Mais la suite change considérablement. Adam désobéit à Dieu, mais, selon le Coran, Adam demande pardon de sa désobéissance et Dieu lui pardonne et rien ne change dans l'ordre de la création. Il s'ensuit que, si on suit cette logique-là, donc le péché d'Adam n'a pas eu de conséquences dommageables et la logique veut que la création telle que nous la voyons de nos propres yeux avec ses bons côtés et ses mauvais côtés, eh bien elle correspond au dessein de Dieu, au plan de Dieu qui aurait donc voulu créer un monde avec des aspects mauvais et des aspects bons, voyez. Nous savons que ce qui ne va pas dans le monde, c'est la conséquence du péché originel qui a conduit à fausser tout l'ordre de la création. Alors vous trouverez ça, là, ces récits dans le Coran, sourate 2, versets 35 à 39, et également dans la sourate 7, versets 19 à 26. Comme il n'y a pas de péché originel, évidemment, il n'y a pas besoin de rédemption. La rédemption, vous le savez, donc, elle a un lien direct avec le péché originel. Pas de rédemption, c'est pourquoi il n'y a pas de messie au sens chrétien du terme dans l'islam. Et on voit que le Coran occulte complètement l'existence de prophètes annonciateurs d'un messie sauveur du monde. Les trois grands prophètes qui ont annoncé le messie, Isaïe, Jérémie et Ézéchiel, sont absents du Coran, alors qu'il y a d'autres personnages qui sont communs au Coran et à la Bible, bien que déformés dans le Coran, comme je vous le montrerai après. Bon, mais cela dit, le Coran parle de Jésus. Donc, il faut s'interroger sur ce personnage, Jésus. Du point de vue musulman, Jésus est un prophète et rien qu'un prophète. Il n'est pas fils de Dieu. Le prophète Jésus a été envoyé par Dieu avec une double mission, toujours selon le Coran, bien sûr. La première mission consistait à apporter l'évangile, l'Injil en arabe, I-N-J-I-L. Vous voyez, j'ai utilisé le singulier. C'est normal, puisque pour les musulmans, Dieu ne peut parler que par un seul livre. Vous savez que l'Église a retenu quatre évangiles canoniques, qui sont considérés comme authentiques, et a rejeté d'autres évangiles qu'on appelle les écrits apocryphes. Mais alors, nous avons donc nos quatre évangiles. Et quand les musulmans voient ça, ils nous disent, vous êtes dans l'erreur, il n'est pas possible à Dieu de parler d'une manière différente. On sait bien que les auteurs des évangiles ont retenu, chaque auteur a retenu tel aspect plutôt que tel autre, a mis l'accent sur telle particularité de l'enseignement de Jésus ou de la vie de Jésus. Il y a des variantes, parce que les évangiles ont été écrits par des hommes, inspirés bien sûr. Ça n'est pas dans la logique musulmane. Dans la logique musulmane, le livre qui vient de Dieu est dicté par Dieu en toutes lettres. C'est le cas du Coran, mais on y reviendra bien sûr. Alors donc, le fait qu'il y a quatre évangiles reconnus comme authentiques, ça accrédite l'idée que les chrétiens sont dans l'erreur et ont falsifié leur écriture. Donc Jésus, d'après le Coran, est envoyé à son peuple, un peuple particulier, le peuple juif, pour apporter l'évangile qui lui-même, l'évangile donc, est censé corriger les erreurs introduites dans le livre précédent, c'est-à-dire la Torah, que Moïse avait apportée au peuple hébreu de la part de Dieu. Donc, il y a eu, vous voyez, trois grands livres. La Torah apportée par Moïse au peuple hébreu. Le Coran dit que les Hébreux ont introduit des erreurs dans la Torah. Et alors, Dieu envoie Jésus avec l'Évangile pour rectifier ces erreurs. Et comme après, les chrétiens sont accusés d'avoir falsifié l'Évangile, notamment avec la Trinité et la divinité de Jésus-Christ, c'est pourquoi, à la fin, Dieu envoie Mahomet avec le Coran. Mais on y reviendra. Alors, je vous donne quelques références coraniques. Vous pourrez examiner cette question. Dans la sourate 2, verset 75, sourate 2 aussi, verset 146, toujours sourate 2, verset 159, verset 174, ou bien sourate 3, verset 71 et 78, sourate 5, verset 13 et 41, ou encore sourate 6, verset 91. Vous voyez, c'est une affaire qui a beaucoup d'importance pour les musulmans. Donc, première mission du prophète Jésus selon le Coran, apporter l'Évangile. Deuxième mission de Jésus, annoncer la venue de Mahomet. Oui, annoncer la venue de Mahomet en tant que sceau des prophètes. Sceau, S-C-E-A-U, celui qui scellera la prophétie. Bien sûr, je vous parlerai plus longuement de Mahomet plus tard. Alors, là, il y a un malentendu entre chrétiens et musulmans. Les musulmans croient que les chrétiens n'ont pas compris le sens du nom du paraclet. Avant de monter vers son père, Jésus nous dit qu'il ne nous laissera pas orphelins, qu'il nous enverra son paraclet, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Pour les musulmans, le paraclet, c'est Mahomet. Alors, ils nous accusent d'avoir déformé le sens authentique du nom du paraclet, et c'est un reproche qui nous est donc également adressé. Dans le Coran, il n'y a pas l'Esprit Saint, bien sûr, puisqu'il n'y a pas les trois personnes divines. Alors, revenons à Jésus. Le Coran dresse un genre de portrait de Jésus. Il nous montre un personnage énigmatique qui, par certains aspects, est plus grand que tous les autres hommes. Et ça, c'est étrange. En effet, le Jésus coranique est montré comme ayant bénéficié de privilèges extraordinaires par rapport à la condition humaine. Ainsi, Jésus est reconnu comme ayant été conçu dans un sein virginal, celui de Marie. La conception n'a pas eu lieu par un homme, mais directement par la parole créatrice de Dieu. Sourate 19, verset 35. Le Coran, en rapportant ce fait, renvoie à la création d'Adam, telle qu'elle est racontée dans la sourate 3, verset 59. Au moment de la conception de Jésus, le Coran dit « Dieu fait ce qu'il veut », bien sûr, et il dit « Il a créé Jésus comme autrefois il avait créé Adam ». Comme Dieu avait dit aux origines que Adam soit et Adam fut, eh bien, à un autre moment de l'histoire, Dieu dit que Jésus soit et Jésus fut. Donc la création d'Adam, c'est dans la sourate 3, verset 59. Le Coran dit que Jésus est né d'une mère vierge, donc, sourate 19, versets 20 et 21. Il dit également, il attribue à Jésus des faits extraordinaires dès sa naissance. Ainsi, on voit tout de suite le nouveau-né Jésus qui parle à sa mère pour la réconforter des fatigues de l'enfantement. Sourate 19, versets 24 à 26. Le petit Jésus qui vient de naître défend aussi l'honneur de sa mère auprès de sa parenté. Vous voyez, le Coran raconte que Marie vient montrer son nouveau-né à ses parents, à sa parenté juive. Et alors là, les Juifs là, lui disent, ses parents quoi, lui disent, mais comment se fait-il que tu nous amènes un enfant alors que tu n'es pas marié et ta mère n'était pas une prostituée, c'est impossible, impardonnable, etc. C'est dans la sourate 19 aussi, versets 27 à 29. Alors l'enfant Jésus prend la parole pour défendre l'honneur de sa mère et en même temps pour se déclarer prophète. Sourate 19, versets 30 et 31. Auparavant, excusez-moi, j'ai oublié une petite étape. Quand Jésus vient de naître, également, donc, il réconforte sa mère et en même temps, il fait sourdre une source des racines du palmier sous lequel il est né pour que sa mère puisse donc boire de l'eau fraîche. Sourate 19, verset 24. Par ailleurs, le Coran évoque certains autres prodiges accomplis par Jésus. Par exemple, on voit Jésus qui donne la vie à un oiseau d'argile. Dans la sourate 5, verset 110. On voit Jésus aussi guérir l'aveugle, le muet et le lépreux, et même ressusciter des morts. Sourate 5, verset 110. Le Coran dit aussi que les disciples de Jésus, qui ne sont pas nommés d'ailleurs, lui ont demandé à un moment donné de faire descendre du ciel une table garnie, servie. Eh bien, ça se produit. C'est sourate 5, versets 112 à 115. Donc, il s'agit là, en fait, quand on examine les choses, de récits qui se retrouvent dans les évangiles apocryphes, les évangiles non reconnus comme authentiques par l'Église. Ce n'est pas inintéressant de souligner ça. Ça veut dire que Mahomet, si on considère que Mahomet a eu un rôle dans le Coran, ce que les musulmans ne croient pas, puisque pour eux c'est directement la dictée de Dieu, mais enfin nous on est étrangers à l'islam, on a bien le droit d'avoir un regard rationnel sur les choses, eh bien ça veut dire que Mahomet a eu l'occasion de rencontrer des chrétiens qui suivaient ces évangiles apocryphes. Hein.